les personnes qui viennent de nous rejoindre ce matin, tout particulièrement. Et j'espère que le trajet s'est bien déroulé pour vous. Vous avez pu suivre un petit peu les aventures d'hier soir et les embûches que les uns et les autres ont pu avoir pour parvenir jusqu'ici, mais par la grâce de Dieu, nous sommes tous là. Et j'espère aussi que vous avez bien dormi, ici ou chez vous. Et ce matin, effectivement, nous entamons l'étude du chapitre 8 de la lettre de Paul aux Romains. Et cela fait suite, en fait, à la série que nous avions déjà commencée, que nous avions parcourue d'avril à juin, série durant laquelle nous avons lu les 7 premiers chapitres. Et je vais tenter de pouvoir résumer un petit peu cela dans un premier temps. Dans cette lettre, dont nous venons de lire un extrait, Paul s'adresse à des chrétiens qui vivent à Rome. Il a entendu parler d'eux, et notamment de leurs difficultés. Des tensions existaient entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine non juive. Ceux d'origine juive éprouvaient une certaine fierté à faire partie du peuple élu, le peuple d'Israël, fierté par rapport à ceux qui étaient nés païens. Et Paul démontre, dans les 7 premiers chapitres, qu'il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Tous ont péché. Les juifs comme les non-juifs. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais tous, les juifs comme les non-juifs, sont déclarés justes quand ils mettent la confiance en Jésus-Christ. Le fait d'être juif, le fait d'avoir la loi de Moïse ou d'obéir au commandement de Dieu ne compte pour rien dans la justification. Ce n'est pas le fait d'être juif, ce n'est pas le fait d'obéir à la loi de Dieu qui fait que Dieu nous déclare juste. Dans sa grâce, Dieu déclare juste seulement ceux qui croient en Christ. Ceux qui ont cru, d'ailleurs, ont tourné le dos au péché. Et ils ne peuvent plus servir le péché comme ils l'ont fait avant de connaître Christ. Désormais, Dieu est leur maître. Continuer à pécher ne sied pas à celles et ceux pour qui Christ est mort et ressuscité. Mais Paul sait aussi que nous ne faisons pas toujours le bien que nous voulons et que nous faisons le mal que nous ne voulons pas. Il y a un combat pour chaque chrétien. Je vais peut-être me décaler si vous ne voyez pas l'écran. Il y a un combat pour chaque chrétien. Et le cœur du chrétien, bien sûr, depuis sa conversion, est tourné vers la loi de Dieu. Il a envie d'obéir à Dieu. Mais le péché est toujours là. Et les actes mauvais qu'un chrétien continue de faire attestent que le péché est toujours là. Or, ce qui doit nous encourager, c'est que pour ce combat, eh bien, nous ne sommes pas seuls. C'est là que nous en venons au magnifique chapitre 8. Comme plusieurs avant moi l'ont dit, ce chapitre commence par « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ ». Ça, c'est notre premier verset. Et il se termine par « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ ». Aucune condamnation à venir et aucune séparation possible. Telles sont les vérités qui encadrent l'ensemble de ce chapitre. Et entre les deux, beaucoup d'autres affirmations de l'apôtre Paul concernant la vie par l'esprit, concernant l'identité du chrétien en tant qu'enfant de Dieu, concernant l'espérance d'une création entièrement renouvelée, concernant l'esprit qui intercède pour nous dans notre faiblesse, concernant l'assurance que Dieu est pour nous, et concernant également le fait que Christ, à la droite de Dieu, intercède pour nous. Et même un week-end comme celui-là est trop court pour aborder autant de vérités glorieuses. Mais déjà, dans ce seul chapitre 8, nous avons tout ce qu'il faut pour être rassurés. Quoi qu'il arrive, pour être rassurés que quoi qu'il arrive, Dieu nous sauve. Dieu nous garantit un avenir glorieux en sa présence, si nous sommes en Christ. Et je me souviens très bien qu'un jour, comme si je le découvrais pour la première fois, j'ai lu d'une traite Romains 8 et j'ai été réconforté, encouragé, boosté. Et c'est précisément l'effet que produit le Saint-Esprit sur notre cœur par ce chapitre. Aucune condamnation à venir, aucune séparation possible de l'amour de Dieu. Et notre chapitre commence par le fait qu'il n'y a aucune condamnation. C'est la première affirmation. Paul a longuement développé dans les chapitres précédents que tous les pécheurs, qu'ils soient juifs ou non juifs, tous les pécheurs qui mettent leur confiance uniquement en Christ sont d'ores et déjà déclarés justes, justifiés par Dieu. Mais c'est vrai, et je l'ai dit à l'instant, la présence du péché dans la vie du chrétien, le combat dont nous avons parlé, peut l'amener à douter. Au fond, si nous avons compris que Dieu n'accepte dans son royaume, dans son paradis, que les justes, et que nous regardons à nous-mêmes, nous nous disons que nous ne sommes pas à la hauteur. Puisque nous continuons de pécher, comment puis-je prétendre, moi qui suis pécheur, me retrouver dans le royaume de Dieu? Je peux avoir des doutes là-dessus. Et voici la réponse de Paul au premier verset. « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. » Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Paul reformule autrement ce qu'il a dit jusque-là. Dans ce verset, c'est une reformulation de ce qu'il a déjà dit auparavant. Si vous croyez en Jésus-Christ, si vous croyez qu'il est mort et ressuscité pour vous, alors vous êtes déclaré juste. Alors vous n'êtes plus condamné comme vous deviez le mériter. Bien que nous péchions encore dans cette vie, Dieu nous dit ce matin que notre condamnation a été levée. Quelqu'un de tout à fait innocent et juste a été condamné à notre place. Ce que la loi de Dieu exigeait de notre part, à savoir de mourir parce que nous avons péché, à savoir être condamné parce que nous avons péché, quelqu'un s'en est chargé à notre place. C'est le cœur de l'Évangile que de redire ce que Dieu a fait pour nous. Et je relis les versets 3 et 4 que nous pouvons aussi afficher. Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs. Et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Il l'a fait, Dieu l'a fait, pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en ce qui nous concerne. Nous qui vivons non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'Esprit. Tout a été accompli par Christ, le Fils de Dieu. Il est venu en personne, dans une nature semblable à celle des hommes pécheurs. Comprenez que Paul parle ici de la nature humaine, mais à une exception près. Jésus, Dieu de toute éternité, est devenu un homme. Et la seule différence capitale avec nous est qu'il était sans péché. Et cette différence, elle est capitale, parce que sinon, il n'aurait pas pu se sacrifier pour nous. Oui, il était entièrement homme, mais la seule différence avec nous, il était sans péché. Et Dieu nous dit ce matin que la sanction que nous méritons pour nos fautes est tombée sur cet homme parfaitement juste, notre Seigneur Jésus. Et c'est ce qui s'est passé à la croix. Je sais qu'en vous disant tout cela, je ne vous apprends rien de nouveau. C'est le message même de l'Évangile. Mais combien nous avons encore besoin de l'entendre. Il n'y a plus de condamnation pour nous, pour celles et ceux qui ont mis leur confiance en Christ. La condamnation a été levée. La loi ne pouvait en aucun cas être un moyen pour l'homme d'être sauvé. Parce qu'à cause de notre faiblesse en tant que pécheurs, en tant que transgresseurs, la loi ne pouvait que nous condamner. La loi ne pouvait que dire, en quelque sorte, à notre égard, « à mort, à mort !» Mais Dieu a renversé la situation lorsqu'il a envoyé son propre Fils sur terre et que ce dernier a pris nos péchés sur lui et qu'il est mort pour ça. C'est pourquoi, puisque cet événement dont on est en train de parler a eu lieu il y a près de 2000 ans, Paul peut affirmer pour tous les croyants de son époque jusqu'à aujourd'hui qu'il n'y a plus de condamnation. C'est une autre manière de dire que maintenant, ils sont justifiés. Christ a pris nos fautes et il nous a donné sa justice. Son casier vierge est maintenant compté comme le nôtre. Donc, il n'y a plus de condamnation sur notre compte. Nous sommes sûrs de cela parce que la croix a eu lieu. La condamnation a déjà été exécutée. Il n'y a plus de condamnation. Oui, mais pour qui cela est-il valable? Nous avons la réponse au verset 1 et au verset 4. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ par la foi. Et également pour ceux, c'est les mêmes, hein, qui vivent dans la dépendance de l'Esprit. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ par la foi et qui vivent dans la dépendance de l'Esprit. Autrement dit, et c'est ça qu'il faut comprendre aussi implicitement, il reste toujours une condamnation pour celles et ceux qui ne sont pas en Christ, qui n'appartiennent pas à Christ. Ils sont toujours sous la condamnation. Mais pour celles et ceux qui ont mis leur confiance en Christ, il n'y a plus de condamnation. Et les versets suivants vont préciser les choses. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui vivent par l'Esprit. Des versets 5 à 11, Paul décrit deux conditions. Deux conditions diamétralement opposées. Et pour celles et ceux qui étaient là hier soir, et j'ai envoyé aussi un PDF pour résumer un petit peu ce que j'ai pu dire, nous avons parlé de ces deux conditions. D'un côté, il y a ceux qui vivent à la manière de l'homme livré à lui-même. Dans les versions littérales, c'est ce que nous appelons la chair. C'est en tout cas le terme en grec qui est employé. D'un côté, donc, il y a ceux qui vivent à la manière de l'homme livré à lui-même, qui vivent selon la chair. Et de l'autre, il y a ceux qui vivent par l'Esprit, en dépendant d'eux, en comptant sur le Saint-Esprit. D'un côté, la chair, l'être humain qui ne dépend pas de l'Esprit, qui est livré à ses propres ressources, et c'est ce que nous étions avant de croire en Christ. Et de l'autre, la dépendance au Saint-Esprit, qui est désormais en chaque chrétien. Hier soir, nous l'avons rappelé, au moment où nous avons cru dans le message de l'Évangile, quand ce message nous a été annoncé et que nous avons cru en ce message et que nous avons dit oui au Seigneur, nous avons reçu de Dieu son Esprit qui ne nous quittera plus. Je n'ai pas insisté encore là-dessus, mais lorsque nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons de Dieu. Le Dieu qui s'est révélé dans la Bible est un Dieu trinitaire. Il n'y a qu'un seul Dieu et non pas des dieux. Et il y a trois personnes distinctes que nous ne pouvons pas interchanger. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quand nous disons que Dieu nous a donné son Esprit, cela ne signifie pas que l'Esprit Saint est inférieur à Dieu le Père. L'Esprit est Dieu comme le Père et Dieu, comme le Fils est Dieu, pleinement, entièrement. Et là déjà, ce qu'il y a d'extraordinaire lorsque Paul dit aux chrétiens de Rome que l'Esprit de Dieu habite en eux, c'est qu'il parle de Dieu en eux. Le Saint-Esprit, Dieu en eux. Et donc, pour nous qui croyons, en nous, Dieu en nous. Nous ne parlons pas de n'importe quel esprit. Nous ne parlons pas d'un mauvais esprit. Nous ne parlons pas des esprits que sont les anges, mais nous parlons de l'esprit de Dieu. Dieu en nous. Et nous comprenons d'autant mieux ce que Jésus disait à ses disciples en Jean 14. Voici ce qu'il disait. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. » Par le Saint-Esprit, c'est aussi le Père et le Fils qui établissent domicile chez nous. Par le Saint-Esprit, ils sont présents, Père et Fils. Prenons conscience un instant que Dieu nous a fait un magnifique don lorsqu'il a décidé de demeurer en nous par le Saint-Esprit. Mais ce merveilleux don qu'est le Saint-Esprit, tous les hommes ne l'ont pas reçu. Le verset 9 de notre texte est très clair. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc tous les hommes ne l'ont pas reçu. Autrement dit, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit en lui, il n'est pas chrétien. Oui, c'est ainsi que nous pouvons définir un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a mis sa confiance en Christ et qui a reçu le Saint-Esprit. Il n'est pas possible d'avoir l'un sans l'autre. D'ailleurs, seul l'Esprit nous convainc de mettre notre confiance en Jésus. Aucun chrétien, après être né de nouveau, n'est livré à lui-même, à ses propres ressources. Il a reçu, dès sa conversion, Dieu, le Saint-Esprit. Et c'est tellement important d'être sûr de cela. Parce que comment pouvons-nous parler de la vie par l'Esprit si nous ne sommes même pas certains d'avoir l'Esprit de Dieu en nous? Je reprends la description que Paul fait des deux conditions diamétralement opposées à l'aide d'un tableau. Je vous laisse juste quelques moments pour voir ce qui est indiqué. Ça reprend les éléments de notre texte. Et tout oppose ceux qui vivent selon la chair et ceux qui vivent selon l'esprit. À partir de ce tableau, je dirai une seule remarque concernant ceux qui vivent selon la chair et deux remarques à propos de ceux qui vivent selon l'esprit. Je relis d'abord les versets 7 et 8. En effet, l'homme livré à lui-même dans toutes ses tendances n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu car il ne le peut même pas. Les hommes livrés à eux-mêmes sont incapables de plaire à Dieu. Paul nous décrit ici la réalité des hommes et des femmes qui n'ont pas en eux l'Esprit de Dieu. Et nécessairement, c'était aussi notre cas avant de donner notre vie au Seigneur. Nous étions contre Dieu. Avant de connaître le Seigneur, nous étions contre Dieu. Dieu n'avait pas d'importance pour nous. Qui est Dieu? Dans tout ce que nous faisions, Dieu n'avait pas sa place. L'homme qui est livré à ses propres ressources n'a que faire de la loi de Dieu. Les non-croyants peuvent faire beaucoup de bonnes choses, mais jamais en lien avec l'idée de plaire à Dieu. Et Paul insiste bien, il ne se soumet pas à la loi de Dieu car il ne le peut même pas. Il est impossible pour l'homme ou la femme qui n'a pas l'Esprit de Dieu de se soumettre au commandement de Dieu. Il ne le peut même pas. C'est une idée qui ne lui plaît même pas de chercher à obéir à Dieu. L'homme, du fait de son état de pécheur, n'a pas la capacité naturelle d'obéir à Dieu. Et en cela, les hommes qui vivent selon la chair sont incapables de plaire à Dieu. Rendez-vous compte que c'est ce que nous étions avant de connaître Christ, avant de recevoir l'Esprit de Dieu. Deux autres remarques concernant ceux qui vivent par l'Esprit. Si l'Esprit de Dieu habite en nous, alors nous ne pouvons pas vivre notre vie chrétienne sans dépendre de lui. Nous ne pouvons pas l'envisager. Nous avons reçu un si magnifique don de la part de Dieu que ce serait le gâcher de ne pas dépendre de lui. Car nous l'avons vu, si nous cessons de dépendre de l'Esprit de Dieu, nous vivrons comme des personnes livrées à elles-mêmes, comptant sur leur propre force. Et si nous sommes devenus chrétiens par la grâce de Dieu, ce n'est pas pour vivre comme avant, comme des non-chrétiens. C'est pourquoi Paul le dit bien au verset 9. « Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même. Vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. » Et que fait l'Esprit en nous ? Vers où nous conduit-il ? Vers la vie et la paix. C'est ce que nous voyons au verset 6. Notre vie chrétienne n'est possible que par la présence même du Saint-Esprit en nous. Là où il n'y a pas l'Esprit, il n'y a pas de vie chrétienne. Pour le dire schématiquement, tant que l'Esprit n'a pas œuvré en quelqu'un, cette personne n'est pas chrétienne. Mais dès lors que l'Esprit convainc que nous avons besoin de Jésus comme Sauveur et qu'il habite en nous, alors commence notre vie chrétienne dans cette vie présente et au-delà. Et c'est là où je veux en venir dans ma deuxième remarque, à partir du verset 11. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Oui, nous le savons, nous allons mourir un jour. Et tant que nous sommes dans ce monde déchu, marqué par le péché, nous restons mortels. Nous ne pouvons pas éviter cela. Mais la vie et le sort de notre corps ne s'arrêtent pas là. La promesse nous est faite ici que si l'Esprit habite bien en nous, c'est la garantie qui nous ramènera à la vie. Tout comme Christ, notre Seigneur, a été ramené à la vie. Si l'Esprit habite en nous, c'est la garantie pour nous qui nous ramènera à la vie. Sa résurrection, la résurrection de notre Seigneur, est la garantie que nous ressusciterons aussi, avec un corps semblable au sien. Nous ne le connaissons pas encore, ce corps, mais la promesse nous est faite qu'il en sera ainsi. Et Paul le dit aux Philippiens. Je vous lis Philippiens chapitre 3, verset 21. Il, c'est-à-dire Jésus-Christ, transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Oui, Dieu a le pouvoir de faire du corps que nous avons présentement un corps glorieux à la résurrection. Ou si nous sommes encore vivants au moment où Christ revient, ce sera une transformation instantanée. Et ça aussi, je pense que nous avons parfois du mal à en prendre conscience de cette espérance qui est devant nous. Oui, le corps que nous avons présentement sera tout autre. Ça ne veut pas dire que nous changerons de visage. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas nous reconnaître. Ça veut dire que notre corps sera totalement différent, incorruptible. Et j'aimerais, à ce sujet, eh bien, aussi lire ce que Paul dit aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 37. Il utilise d'ailleurs une image agricole. Écoutez. « Et ce que tu sèmes, ce n'est pas la plante qui poussera. » Vous êtes d'accord avec moi? La graine que vous mettez, ensuite la plante qui sort, ça n'a rien à voir avec la graine qu'on a plantée. Enfin, en tout cas, ça ne ressemble pas. C'est une simple graine, un grain de blé peut-être, ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il le veut, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Un peu plus loin, Paul dit, c'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel, c'est-à-dire animé par l'Esprit, entièrement animé par l'Esprit. Est-ce que nous nous rendons compte de cela? Que la présence du Saint-Esprit en nous est la garantie qu'il s'occupera de notre corps pour le transformer. Pas simplement notre vie intérieure et tout ce qu'il est nécessaire de changer, mais aussi notre corps entier. Ce corps qui nous sert encore malheureusement à pécher contre Dieu ne servira plus ce but. Et lorsque Dieu nous ramènera à la vie, notre corps servira uniquement à obéir à Dieu. Donc pour récapituler ce que nous avons vu, l'homme livré à lui-même est celui qui vit sans dépendre de Dieu, qui compte juste sur ses propres forces et qui naturellement désobéit à Dieu. L'homme qui vit par l'Esprit est celui qui vit en comptant sur l'Esprit de Dieu pour vivre comme Dieu le demande. Ses pensées et ses préoccupations vont fondamentalement dans le sens de Dieu. Et l'Esprit de Dieu lui donne la capacité de suivre les commandements de Dieu, le pousse dans cette direction. Et j'aimerais juste m'arrêter sur ce que je suis en train de dire. Quand je dis que l'Esprit nous pousse à faire ce qui plaît à Dieu, je pense notamment à ma propre expérience. Il m'arrive, et je vais le raconter comme je l'ai vécu, comme je le vis, il m'arrive de sentir que je suis poussé à agir. Et sans doute poussé par l'Esprit à agir. Par exemple, je suis en train de travailler, ou de faire autre chose, de cuisiner, je ne sais pas, et je suis poussé à m'arrêter pour prier à ce moment-là. Je sens que je dois le faire. Et si je ne le fais pas, eh bien, je ne suis pas en train de dépendre de l'Esprit. Un autre exemple encore, pour illustrer les relations fraternelles. Un jour, ça s'est passé à Nantes, donc ça ne concerne personne ici. Je croise une sœur à un arrêt de bus. Elle est d'un certain âge, je connais sa situation, elle vit seule et ses enfants ne viennent jamais la visiter. C'est le dimanche matin et parfois le matin, eh bien, je n'ai pas envie de discuter. Mais c'est une sœur. Je la reconnais et je ne peux pas faire semblant de ne pas l'avoir vue. Je suis poussé à ce moment-là à aller lui parler. Le cœur n'y était pas totalement, mais j'y suis allé quand même. Je comprends par tout cela que vivre par l'Esprit, c'est aller dans le sens de l'obéissance. Et je l'ai dit hier, l'Esprit ne nous conduira jamais à aller à l'encontre de la loi de Dieu. Tout ce que l'Esprit nous poussera à faire, c'est d'obéir à Dieu. Il nous poussera toujours dans la direction de l'amour. Toujours. Ceux qui vivent par l'Esprit sont assurés, d'après Paul, qu'il n'y a plus de condamnation. La présence même de l'Esprit en eux indique qu'ils ne sont plus condamnés. Le fait qu'ils aient l'Esprit est une attestation qu'ils ne sont plus condamnés. Parce que l'Esprit ne peut pas habiter en ceux qui sont encore sous la condamnation. L'Esprit n'habite qu'en ceux qui ont été déclarés justes. Et après avoir dit tout cela, Paul nous donne une implication. Ceux qui vivent par l'Esprit, ce sont aussi ceux qui font mourir les actes mauvais. Verset 12, « Ainsi donc, frères et sœurs, si nous avons une obligation, ce n'est pas celle de vivre à la manière de l'homme livré à lui-même. » Et il nous faut nous arrêter sur ce qui nous est dit ici. En tant que chrétiens, nous avons une obligation. Je pense que vous lisez comme moi ce verset. Si nous avons une obligation, et effectivement, nous en avons une. Littéralement, nous avons une dette. Mais cette dette n'est pas envers la chair, n'est pas envers la condition de l'homme livré à lui-même. Nous ne devons plus rien à cette condition-là. C'est notre condition passée. Mais effectivement, l'apôtre Paul a quand même un avertissement. Parce que finalement, à cause du péché, eh bien, nous avons envie d'aller encore vers cette condition de l'homme livré à lui-même. Et l'avertissement de Paul, nous le retrouvons au verset 13, « Car si vous vivez, » là il parle à des chrétiens, « si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous mourrez. » Ceux qui ne vivent pas selon l'esprit finissent par mourir. C'est la pente descendante qui conduit tout droit à la condamnation, à la séparation éternelle avec Dieu. Et bien évidemment, Paul n'est pas en train de se contredire ici quand il prévient les chrétiens. Les chrétiens peuvent réellement avoir l'assurance solide qu'ils vivront avec un corps ressuscité et glorieux, qu'ils vivront l'éternité avec Dieu parce qu'il n'y a plus de condamnation pour eux. Mais si Paul dit une telle chose ici au verset 13, cela nous ramène à la réalité concrète que le péché qui traîne la mort dans son sillage est véritablement séducteur et qu'il faut s'en méfier. Si Paul avertit de cette manière-là, c'est pour nous dire « Attention, il y a un danger réel ». Il faut se méfier du péché. Bien plus, il faut s'en détacher. Et c'est tout l'objet de la fin du verset 13. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Si le premier verset de notre texte parlait de justification, le dernier verset de notre passage, en tout cas, parle de sanctification. Qu'est-ce que la sanctification ? C'est le processus qui consiste à progresser dans la sainteté vers la perfection, à devenir de plus en plus conforme à l'image de Christ. C'est ça la sanctification, ce processus qui nous conduit à progresser, de progrès en progrès, pour ressembler toujours davantage à Christ. Or, Christ était, et il est toujours, sans péché. Il est notre modèle et celui à qui nous ressemblerons au bout du parcours et pour l'éternité. Mais en attendant ce jour, nous sommes dans ce processus qu'on appelle la sanctification. Et ce qui met sérieusement des bâtons dans les roues, c'est bien sûr le diable, par ses incitations à déplaire à Dieu, mais surtout le péché qui continue de nous corrompre. En devenant chrétien, nous n'avons pas arrêté de pécher. Je pense que vous l'avez remarqué. Le péché est toujours à l'œuvre. Et nous le constatons bien, il est difficile et parfois très difficile de nous en défaire. Mais Paul donne de l'espoir dans ce verset à ses frères et sœurs en qui l'Esprit habite. Puisque l'Esprit est en nous, puisque l'Esprit habite en nous, il est possible de progresser dans la sainteté. C'est ça l'espoir. Il est possible de progresser et en particulier de s'occuper très sérieusement du péché qui veut encore faire sa loi en nous. Et quand il fait sa loi, quand le péché fait sa loi, nous le savons tout de suite parce que nous nous mettons à pécher. Notre corps sert alors à faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Nous allons mal parler à nos proches. Nous allons médire à propos de notre patron, nous allons tricher à un examen, nous allons mentir sur notre déclaration de revenus, nous allons consommer de la pornographie, nous allons promener des regards baladeurs, et il y aurait tant de péchés à citer. Quand le péché fait sa loi, nous le savons parce que nous nous mettons à pécher. Et en tant que chrétien, et ça nous ne devons jamais l'oublier, en tant que chrétien, nous avons un combat à mener. Nous avons des choix à faire au quotidien, jour après jour. Et le premier de ces choix est de vivre par l'Esprit, en nous laissant diriger par lui, en étant prompt à obéir plutôt qu'à désobéir. Le premier choix que nous devons faire chaque jour, c'est de vivre par l'Esprit. Cela demande de notre part des efforts. Vous ne progresserez jamais sans faire d'efforts. C'est valable pour le sport, c'est valable pour la musique, c'est valable pour toute autre aptitude. Vous ne progresserez jamais sans faire d'efforts. Mais la différence avec la sanctification, c'est que vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous avez besoin de faire des efforts et vous avez besoin du Saint-Esprit. Pour faire du sport, vous n'avez pas nécessairement besoin du Saint-Esprit, même si, effectivement, de toute façon, on ne se détache pas du Saint-Esprit en faisant du sport. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi le Saint-Esprit est en nous ? Pour la sanctification. Pour nous faire ressembler à Christ. Il y a nos efforts en même temps que notre dépendance à l'Esprit. Sans les efforts, tout comme sans le Saint-Esprit, il est impossible de gagner le combat contre le péché. Vous avez bien entendu, sans nos efforts et sans le Saint-Esprit, il est impossible de gagner le combat contre le péché. Et nous continuerons de pécher encore et encore. Et vous avez vu ce qui est écrit au verset 13. Si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous mourrez. Et vous comprenez bien que ici, ce que Paul est en train de dire, c'est que c'est un combat à mort. Soit nous mettons à mort le péché, soit c'est le péché qui nous met à mort. D'où le vocabulaire que Paul emploie ici. Il s'agit de faire mourir les actes mauvais accomplis dans notre corps. Il s'agit de ne pas permettre qu'ils soient commis, ces actes mauvais. Il s'agit de prendre le péché, enfin de prendre le problème à sa racine, c'est-à-dire ce qui anime notre cœur, ce qui anime nos pensées, ce qui est de l'ordre du péché. Il s'agit d'être radical, comme lorsque Jésus disait « si ta main te pousse à mal agir », qu'est-ce qu'il disait ? Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Coupe-la. Si ton œil te pousse à mal agir, qu'est-ce qu'il faut faire ? Arrache-le. Bien sûr, il n'y a rien de littéral dans les paroles de Jésus. Je préfère quand même le dire. Il n'y a rien de littéral dans ce que Jésus est en train d'enseigner. Mais l'image qu'il emploie suggère ce qu'il faut faire face au péché. Et comme un œil arraché, comme une main coupée. Et je pense qu'à ma connaissance, personne n'a connu cette expérience de la main coupée. Comme une main coupée, c'est douloureux et ça fait mal. Et c'est ce que Jésus veut évoquer par cette image. Ça fait mal de combattre contre le péché. Et c'est nécessairement, ça fait nécessairement mal. C'est nécessairement douloureux. Et on ne peut pas échapper à cela. Dans certains cas critiques, même si je ne suis pas médecin, il me semble que l'amputation est parfois la seule solution pour préserver la santé d'un patient. Il n'y a pas de choix. Si nous voulons sauver le patient, il faut amputer quelque part. Et c'est nécessaire. Et avec le péché, au pouvoir séducteur, au pouvoir destructeur, nous ne pouvons pas jouer les tendres. Nous ne pouvons pas qualifier tel péché de péché mignon. Alors comment faire concrètement ? Comme je vous l'ai dit, le premier choix est déterminant, celui de dépendre de l'Esprit. Et comment est-ce que je dépends de l'Esprit ? Comment est-ce que, en fait, je dépends de Dieu dans ma vie de tous les jours ? Comment est-ce que j'exprime cette dépendance ? Le seul moyen qui nous est donné par Dieu est la prière. Commence par prier Dieu. Et par lui demander qu'il te dirige par son esprit. Qu'il agisse en toi par son esprit. Qu'il te rende capable par son esprit de faire ce qui lui plaît. Commence par demander cela. Commence par dire ta dépendance de l'esprit dans la prière. Il ne s'agit pas juste de dire « je vais dépendre du Saint-Esprit ». Demande au Seigneur de dépendre de lui. Pas seulement une fois dans la journée, mais tout au long de la journée. Pas seulement une fois dans la journée, pas seulement la prière du matin, mais tout au long de la journée. et plus spécifiquement demande à Dieu son aide pour lutter contre un péché, deux péchés, autant de péchés vers lesquels tu reviens. Demande son aide. Tu ne peux pas t'en débarrasser sans lui. Sans Dieu, sans son œuvre puissante en toi, tu ne te débarrasseras pas des mauvaises pensées. Tu ne te débarrasseras pas des mauvaises paroles. Tu ne te débarrasseras pas des mauvaises attitudes. Or, pour ta santé spirituelle, il faut que tu t'en débarrasses. Il faut cette amputation. Elle est nécessaire. Il faut ce renoncement coûteux. Est-ce que nous prions afin de ne plus commettre tel ou tel péché? Est-ce que nous mettons fin à certaines relations qui nous poussent à mal agir? Est-ce que nous mettons fin à certaines habitudes, comme le fait de passer en revue des vidéos qui polluent notre esprit? Et en disant cela, je ne veux jeter la pierre à personne, parce que moi-même, je suis concerné. Avec le péché, ne soyons pas tendres. Si vous devez avoir une haine envers quelque chose, c'est le péché. Avec le péché, ne soyez pas tendres. Jour après jour, après jour, après jour, il nous faut compter sur le Saint-Esprit qui nous fera progresser dans la sainteté. Nous devons faire des efforts, mais c'est lui qui nous fera progresser. Et cela requiert notre volonté, et cela requiert notre prière. Et je reviens sur le verset 12. Nous avons une obligation, non pas à l'égard de la chair, mais à l'égard de l'esprit. Ce qui signifie que ce que je viens de dire n'est pas optionnel pour le chrétien. Ce que je viens de dire concernant notre lutte contre le péché n'est pas optionnel. Nous avons une obligation, celle de vivre par l'esprit et de faire mourir les actes mauvais. Puisque Dieu nous a donné son esprit, nous avons comme obligation de vivre selon l'esprit. Mais c'est une obligation qui est libératrice. Nous avons une dette, et cette dette est envers l'esprit. Nous devons vivre selon l'esprit. Que retenir de tout ce que j'ai évoqué? Je crois que j'ai dit plein de choses, mais quand même, je voudrais ramasser tout cela en trois éléments. Bon, vous savez que j'aime bien évoquer trois, c'est facile à retenir. D'abord, mais on récapitule simplement ce que je viens de dire. Christ a été condamné à la place des pécheurs, et tous ceux et celles qui ont mis leur confiance en lui sont assurés qu'il n'y a plus de condamnation pour eux. Et ça nous fait du bien de l'entendre. Celles et ceux, deuxièmement, qui ont mis leur confiance en Christ sont aussi ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Ils ne vivent plus comme des hommes livrés à eux-mêmes, et pour leur vie chrétienne, ils dépendent constamment du Saint-Esprit. Pas juste aujourd'hui et demain, mais constamment. Et enfin, celles et ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu ont une obligation, celle de vivre en suivant ses directives. Et cela concerne tout particulièrement le péché dans leur vie. Il s'agit de faire disparaître de notre vie, avec l'aide de l'Esprit, tout péché. Comment voulez-vous parvenir à ressembler à Christ qui est sans péché si vous ne cherchez pas à vous débarrasser de tout péché? Vivre par l'Esprit est donc à la portée de tous les chrétiens, puisque l'Esprit habite en eux. Vivre par l'Esprit, dépendre de l'Esprit est à la portée de tous les chrétiens, puisque l'Esprit habite en eux. Et c'est vrai, comme l'a dit tout à l'heure Laura, ce n'est pas un chemin facile. L'effet n'est pas instantané, parce que notre transformation prend du temps, beaucoup de temps. Aucun d'entre nous ne ressemble encore à Jésus en tout point. Notre transformation opérée par le Saint-Esprit prend du temps, beaucoup de temps. Et cela signifie que c'est jour après jour, que nous décidons de vivre par l'Esprit. C'est jour après jour qu'il faut faire ce choix. Aujourd'hui, demain, quand nous nous reposerons cette question, et les jours suivants. Ce n'est pas une décision prise une fois pour toutes. Cela requiert notre volonté, nos efforts, nos prières. Mais voici la promesse qui nous est donnée ici. Si par l'Esprit, vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. C'est la promesse de la vie, d'une vie épanouissante, parce que débarrassée du péché. Et j'aimerais peut-être juste, parce que j'y ai pensé, terminer par juste un exemple de situation. Là, j'invente un petit peu. Prenons un homme qui s'appelle Gary. Je crois qu'il y a une personne qui s'appelle Gary ici. Et cet homme, eh bien, il n'est pas très tendre avec ses enfants et avec son entourage, même son voisinage. Gary, il est chrétien, hein, mais voilà, il a du mal à bien communiquer avec les uns et les autres, et parfois il est un peu agressif. Qu'est-ce qui se passe pour Gary? Eh bien, les gens cherchent à l'éviter. De quoi souffre Gary? Il souffre de solitude. Bah parce que personne ne vient le voir, ou ses enfants ne veulent même pas venir le visiter, parce qu'il est, il n'est pas très agréable. Souvent, nous nous focalisons sur le fait que Gary souffre de solitude. Mais c'est quoi le vrai problème de Gary? C'est son péché. C'est ça le vrai problème. C'est pas le fait qu'il soit seul, ou le fait que les gens l'évitent. Souvent, nous nous focalisons sur ces problèmes que nous pouvons avoir, mais le vrai problème, celui que nous devons chercher à régler jour après jour, c'est notre péché. On peut avoir 1000 soucis dans la vie, mais votre souci principal, ce sera toujours votre péché, qui parfois, en fait, est la cause de vos soucis. Donc, dans l'histoire de Gary, ce qu'il doit régler d'abord, c'est le fait de pouvoir traiter son péché avec l'aide du Saint-Esprit. Et sans doute qu'à un moment donné, il ne souffrira plus de solitude. Parce que l'Esprit le poussera dans la direction de l'amour.